Des mots pour le dire, une émission présentée par Edonès Banti avec Michel Théron.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le réseau FM+, si vous nous rejoignez pour ce rendez-vous hebdomadaire avec Michel Théron. Bonjour Michel.
Bonjour Edouane, bonjour à tous.
Des mots pour le dire, méandre de l'amour, Eros et Agapé, c'est le titre du livre donc écrit par Michel Théron et paru aux éditions Dervy, qui nous sert de barque pour traverser à la fois le temps, les sentiments et les sentis qui mentent. Aussi, hein, parce que dans le sentiment, on apprend beaucoup de choses, et on revient et on continue aujourd'hui avec la problématique toujours de l'amour, de l'éros, de l'agapé, c'est ce que nous avons décliné depuis des semaines, et aujourd'hui nous allons aborder amour et amour propre, qui est le titre de ce chapitre du livre. Et avant de vous céder la parole, Michel, si vous me permettez, comme toujours, trois petites citations. La première de Louis Dumur qui dit « L'homme est un mécanisme de l'amour propre, que l'amour propre remonte chaque jour. » Gilbert Sesbon qui dit « L'amour propre est la forme défensive de l'orgueil. » Et enfin, Émile Faguet, « La culture est une victoire de l'ennui sur l'amour propre. »
Oui, alors effectivement, toutes ces citations semblent faire l'éloge de l'amour propre, excepté la dernière, hein, peut-être. Mais moi, je vais critiquer cet amour propre, et j'avais commencé de le faire d'ailleurs lors de la précédente émission, à la fin de la précédente émission. Vous voyez, Redouane, il me semble qu'un des plus grands ennemis de l'amour, c'est précisément l'amour propre. L'amour propre vient d'une survalorisation du petit moi, de l'ego, comme je dis toujours, je me répète, du fameux tout à l'ego, c'est-à-dire un ego paranoïaque et égocentré. L'égocentrisme, c'est le fait de tout ramener à soi, hein. Eh bien, cet amour propre ne veut pas baisser pavillon, c'est-à-dire s'avouer vaincu, dans une relation amoureuse engagée, hein, et dans les épreuves qui la guettent tout le temps. Parce que vous voyez, Redouane, il ne faut pas être angélique, nous ne sommes pas au pays des bisounours, hein. Il y a toujours, même lors d'une relation épanouie et harmonieuse, des fâcheries, des disputes qui se produisent quotidiennement peut-être, hein. Alors, l'amour propre vient, il me semble, d'une importance excessive que l'on donne au regard des autres, hein. On s'imaginerait déchoir si l'on acceptait sa défaite, hein, au cas où peut-être les autres viendraient à le savoir. Et l'on se fait, comme on dit, un point d'honneur de ne pas accepter sa défaite. Alors, à la fin de la dernière émission, j'avais signalé l'univers de Corneille, que l'on vante toujours, hein. On vante la fougue adolescence, de l'adolescence dans le Cid, par exemple, hein. Vous voyez, c'est une pièce où Rodrigue, par exemple, défend son honneur, son amour propre, hein. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années, vous voyez, hein. Donc, l'honneur est relié à la réputation, puisque lorsque Rodrigue dit à Chimène « Qui m'aima généreux me haïrait infâme », vous avez infâme, c'est-à-dire perdu de réputation, latin fama, si vous voulez, hein. Donc, l'enjeu, c'est le respect qu'on s'imagine que les autres nous doivent et la réputation que l'on a, à laquelle on est viscéralement attaché. Alors, j'avais dit que, prenons le cas des jeunes de banlieue qui n'acceptent pas qu'on les regarde de travers, ou qu'on leur marche sur les pieds, eh bien, ces jeunes-là comprendraient tout à fait la logique de Rodrigue dans le Cid, hein, bon, qui veut venger l'honneur de son père qui a été souffleté, hein, bon, un soufflé, voilà, une gifle, hein, eh bien, aujourd'hui, les jeunes comprendraient cela. Ils disent, un tel, voilà, il m'a manqué de respect, hein. Eh bien, figurez-vous, Redouane, malgré tout ce que l'on peut dire, malgré ce que disent les manuel scolaire sur la beauté du Cid et le fait qu'il est tout imprégné de cette flamme adolescente, je conteste radicalement la pertinence de cette pièce d'un point de vue humain, si vous voulez, hein. Parce que, bon, qu'est-ce qui est en question? Il s'agit de faire en sorte que l'autre n'empiète pas sur notre territoire, hein, ne vienne pas, en quelque sorte, piétiner nos plate-bande, en quelque sorte, vous voyez, hein. Et ça, c'est quelque chose d'instinctif, d'animal. Chaque animal a son territoire, son espace, et il n'admet pas qu'on entre dans son espace. Donc, tout l'effort de la culture, vous voyez, Redouane, il me semble que c'est un effort qui doit dépasser l'instinct, qui doit s'élever au-delà, hein, de cet instinct immédiat, vous voyez. Et donc, cette pièce, il n'y avait pas l'écueil de la langue, qui effectivement, cette langue du XVIIe siècle est très éloignée du vocabulaire des jeunes d'aujourd'hui, eh bien cette pièce serait complètement comprise, hein, la logique en serait tout à fait perçue, hein, puisque ces jeunes valorisent le respect qu'on leur doit et la préservation de leur honneur, hein, contre ceux qui sont censés y porter atteinte. Alors j'avais dit pour terminer la précédente émission que l'honneur, par exemple, tient à ce que l'on fait soi-même et non pas à ce que l'on nous fait, hein. Si quelqu'un m'agresse, me marche sur les pieds ou éventuellement me donne une gifle, eh bien c'est lui-même qu'il déshonore et non pas moi. Je ne suis pas du tout déshonoré par ce que l'on me fait. Et j'avais parlé aussi des fameux crimes d'honneur où une femme, mettons, qui a été violée, eh bien est mise à mort dans des sociétés archaïques. Cela existe encore, hein. Or, une femme violée n'est pas une femme déshonorée. Hein, elle est victime d'un crime. Celui qui est déshonoré, c'est son agresseur, hein, le criminel, vous voyez. Hein. Donc, comment se fait-il qu'on ait honte, justement, d'une telle agression, au point que parfois, on ne veuille pas aller se plaindre ou déposer plainte au commissariat, etc. La raison est la suivante, c'est qu'on s'imagine que toute la société va nous repousser puisqu'on a été souillé. Hein. Vous savez, dans une pièce, Marcel Pagnol fait dire à un de ses personnages, l'honneur, c'est comme les allumettes, ça ne sert qu'une fois. Hein. Cela veut dire qu'on valorise avant tout chez une jeune fille la virginité. Cette pièce, le Pagnol met ça dans la bouche d'un personnage. J'espère qu'il ne la prenait pas à son compte, hein, parce que finalement, cela n'est pas vrai. Et pourtant, cela a fonctionné pendant longtemps, vous voyez. Hein. Donc,
et puis ça coupe court à la réhabilitation. Parce qu'on peut aussi se déshonorer par un geste malheureux, parce qu'on a piqué dans la caisse, parce que voilà, l'honneur est perdu, mais il peut se retrouver aussi.
Oui, voilà. Alors Schopenhauer, dans ses aphorismes sur la sagesse dans la vie, a critiqué l'honneur chevaleresque. Hein. La honra des Espagnols, je crois que c'est comme ça qu'on dit.
La honra.
Voilà. Le médecin de son honneur, etc. dans les pièces classiques espagnoles. Hein. Voilà. Alors, c'est quelque chose, je dirais, de castillan, hein, donc la fierté. Bon. Eh bien, figurez-vous, je suis pas d'accord. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'un jour, par exemple, quelqu'un avait souffleté Socrate, et Socrate avait répondu « Patasei alla kuei », c'est-à-dire « frappe moi, mais écoute ce que j'ai à te dire. Hein. » Donc, vous voyez, lorsque le comte Almaviva chez Beaumarchais se met en colère contre Figaro, Figaro lui répond « Eh bien, vous commandez à tout ici, sauf à vous-même. Hein. » Donc, celui qui se déshonore, c'est celui qui agit criminellement ou sottement, ou par une impulsion irrationnelle, vous voyez. Alors, il faudrait, je crois, cesser de vivre en dépendant du regard d'autrui, car c'est évidemment un signe d'immaturité. Hein. Et alors, dans l'amour, l'enjeu est très simple, c'est simplement le bonheur. Hein. Alors, pourquoi dépendre des autres, hein? Vous savez que Sartre nous dit à propos des autres qu'ils sont l'enfer. Hein. L'enfer, c'est les autres, voyez, huis clos. Hein. Donc, je dirais que, comme le disait Sacha Guitry, et c'est un mot que j'ai rapporté la dernière émission, hein, si les gens qui disent du mal de moi savaient ce que je pense d'eux, ils en diraient bien davantage, vous voyez. Hein. Donc, moquons-nous du regard des autres, hein. Aussi bien Montaigne nous dit « il faut se prêter aux autres et ne se donner qu'à soi-même », vous voyez. Hein. Donc c'est très important quand même la prise en compte de du but de la vie, qui est atteindre le bonheur. Hein. Prenez le cas de l'ambition. Bon, qu'est-ce que c'est que s'élever dans la société, Redouane? Je crois que s'élever, c'est ramper à la verticale, tout simplement. Hein. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup s'aplatir pour pouvoir s'élever socialement. Hein. Et Eh bien, les ambitieux, c'est comme cela qu'ils, qu'ils fonctionnent. Hein. Et alors on dit, ils cherchent, ils sont devenus quelqu'un, mais qui hein. Bon, et puis ils sont arrivés, mais dans quel état sont-ils arrivés? Vous voyez, au prix souvent de reniements, de platitudes, de courbettes. Vous voyez, hein. Même les vers de terre, Redouane, se redressent quand on leur marche sur la queue. Hein. Par conséquent, il faut avoir, comment dire, un minimum de décence dans cette course effrénée à l'ambition. Eh bien, prenez le cas des deux romans, par exemple, de Stendhal, Le Rouge et le Noir et La Chartreuse de Parme. Eh bien, les héros respectifs, Julien Sorel et Fabrice Del Dongo, ont connu le vrai amour, mais ce sont aussi des ambitieux. Et dans Le Rouge et le Noir, Julien Sorel s'élève dans la société. À la fin, cela finit très mal. Il est exécuté. Bon, mais ça, c'est l'histoire du roman. Mais dans sa prison, il se souvient de l'amour vrai, véritable qu'il a connu avec Madame de Rênal. Il dit, ça, c'était le plus important. Pareillement, Fabrice Del Dongo, eh bien, c'est dans la prison hein, où il est retenu qu'il se rend compte que le plus important, c'est l'amour véritable qu'on éprouve pour quelqu'un. Qu'est-ce que c'est que l'ambition à côté de tout cela, vous voyez? La prison, c'est le fait d'être en dehors de la comédie sociale. Eh bien, écoutons ces deux héros. Je crois, vous voyez, qu'il ne faut jamais hésiter. Entre l'ambition et l'amour, seul l'amour remplit la vie. Et Madame de Staël disait très bien, la gloire est le deuil éclatant du bonheur. De toute façon, à la fin, que l'on soit roi ou que l'on soit manant, eh bien, on meurt. Hein. La mort est égalisatrice, comme le disait Victor Hugo. Hein. Si grand que soit un homme au compte de l'orgueil, nul n'a plus de 6 pieds de haut dans le cercueil, vous voyez. Donc finalement, la mort est la grande égalisatrice. Toison ekein dikaion esti, dit Platon. Le fait d'avoir la même chose, voilà la justice. Hein. Donc que l'on soit haut placé ou pas, notre sort est identique. Je prendrai un dernier exemple, puisque je suis un professeur de lettres à la retraite. Hein. J'aime beaucoup la littérature. Eh bien, prenons le cas des liaisons dangereuses de Laclos. Eh bien, vous avez le héros qui est un roué cynique, comme et qui s'appelle Valmont, il finit par reconnaître à la fin que le souci de sa réputation de séducteur n'est rien à côté de l'amour vrai qu'il a éprouvé enfin avec la présidente de Tourvel. Et il l'avoue d'ailleurs à la fin du roman au chevalier Danceny qui vient de le frapper à mort en duel. Il dit « Croyez-moi, vicomte, on n'est heureux que par l'amour ». Il se repent, mais c'est trop tard, hélas, d'avoir envoyé, par souci de frime sociale et, comment dire, de réputation à maintenir, d'avoir envoyé à la présidente de Tourvel, celle qu'il aimait, la fameuse lettre de rupture. Hein, j'invite les auditeurs à la relire, c'est la lettre 141 des liaisons. Hein. Vous savez, cette lettre qui commence par « On se lasse de tout, mon ange, c'est une loi de la nature, ce n'est pas ma faute, ce n'est pas ma faute » qui revient comme un refrain, un leitmotiv, et qui va écraser complètement Madame de Tourvel. Mais en réalité, Madame de Merteuil avait, par jalousie pour Madame de Tourvel, suggéré à Valmont d'envoyer cette lettre. Et c'était un piège qu'elle lui tendait pour savoir s'il aurait la sottise de succomber à ce piège. Mais il a foncé tête baissée dans ce piège, vous voyez. Non, je pense que les hommes sont sots, comme des petits coqs. Hein, ils font passer leurs soucis de représentation sociale, leur vanité ou leur amour propre, hein, avant le bonheur que donne le vrai amour, vous voyez. Je crois que nous aurons fait beaucoup de progrès dans la vie quand nous nous détacherons complètement de l'opinion que les autres ont de nous, ou que nous nous imaginons qu'ils ont de nous, vous voyez. Bon, si j'ai la réputation d'un séducteur, si on me dit séduire cette femme que j'aime pourtant profondément pour la première fois, c'est indigne de ta réputation, je suis capable, bêtement, sottement, de refuser justement d'éprouver cet amour et d'envoyer à la femme que j'aime une lettre meurtrière et anéantissante, vous voyez. Donc ça, ça me semble très très important. L'honneur, vous voyez, bon, Ça ne signifie pas grand-chose, Redouane, que d'être honoré, puisque ça ne signifie pas qu'on soit honorable. Hein. Bon, il y a des cas où les honneurs déshonorent, si vous voulez. Je prends le cas, par exemple, des décorations. Hein. Mort au champ d'honneur, on donne une décoration, mais ce champ d'honneur est un champ d'horreur, hein, finalement. Bon, qu'est-ce que cela veut dire, hein? Alors, je ne veux pas provoquer, mais enfin, je ne sais plus quel humoriste sarcastique avait dit à propos de la Légion d'honneur, le rouge, quand il ne monte pas au front, il s'arrête à la boutonnière, vous voyez? C'est-à-dire, quand on n'est pas honteux, quand la honte nous fait défaut, alors on est décoré, vous voyez? Et alors, j'ai choisi comme première virgule musicale un poème posthume de Georges Brassens, qui est chanté par Maxime Le Forestier, et qui s'intitule « La Légion d'honneur ».
Tous les brumels, les dandys, les gandins, ils les considéraient avec dédain, faisant peu de cas de l'élégance, ils s'habillaient toujours au décrochez-moi ça, au combat pour s'en faire une liquette, sous un déluge d'obus de roquettes, il conquit un oriflamme teuton, cet acte lui valut le grand cordon. Mais il perdit le privilège de s'aller vêtir à la 6-4-2, car ça la fout mal, sa perlipopette, d'avoir des faux plis, des trous assez bas, de mettre un ruban sur la salopette. La Légion d'honneur, ça pardonne pas. L'âme du bon feu maître Jean Cottard se réincarnait chez ce vieux fêtard, tenter de l'empêcher de boire un pot, c'était ni plus ni moins risquer sa peau. Un soir d'intempérance à son insu, il éteignit en pissotant dessus, un simple commencement d'incendie, on lui flanqua le mérite pardis. Depuis que n'est plus vierge son revers, il s'interdit de marcher de travers, car ça la fout mal d'aller dans les vignes, dites du Seigneur, faire des faux pas, quand on est marqué du fatal insigne, la Légion d'honneur, ça pardonne pas. Grand peloteur de fesses convaincu, par ses maîtres en l'art de la main au cul, son dada c'était que la fabule, bas de son dos tout parsemé de bleu, en vue de la palper d'un geste obscène, il a plongé pour sauver de la scène une donzelle en train de se noyer, d'un mot si sec qu'on vous l'a médaillé. Ce petit hochet à la boutonnière vous le condamna de bonne manière, car ça la fout mal avec la rosette, de tâter flatter les filles, les appâts, la louche au valseur, pas de salisette, la Légion d'honneur, ça pardonne pas. Un brave auteur de chansons malotru avait une tendance à parler cru, bordel de Dieu, compute, etc. Ornait ses moindres traderies des rats, s'amuse un soir d'un derrière distrait, on dit, elle ne le fit pas exprès, une rengaine sans gros mots dedans, on roule le chamar à tambour battant. Et maintenant qu'il porte cette croix, proférer merde, il n'en a plus le droit, car ça la fout mal de mettre à ses lèvres de grands commandeurs des termes trop bas, chanter le grand vicaire et les trois orfèvres, la Légion d'honneur, ça pardonne pas.